moment de notre rendez-vous avec Jean-Luc Caribou. Et voici notre troisième rendez-vous avec Jean-Luc Caribou pour les personnages extraordinaires de l'œuvre de Giono. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour Odile. Dans cette suite de personnages extraordinaires, je vais évoquer aujourd'hui un extrait de Solitude de la pitié. Solitude de la pitié, c'est un titre peu connu de l'œuvre de Jean Giono. C'est un recueil de nouvelles. Voilà, et dans ce petit texte, Giono raconte l'histoire de deux errants, de deux vagabonds, SDF, ils n'ont pas de sous, ils sont malheureux, ils ont froid, ils sont sous la pluie, ils ne savent pas où aller, mais il y a deux choses qui les unissent, qui les réunissent, c'est d'une part la pauvreté et d'autre part l'amitié. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où dormir, ils n'ont rien à manger. Alors ils ont 20 sous en poche, pas plus. Et ils décident de les dépenser pour prendre la diligence jusqu'à la petite ville la plus proche. Et là, ils ont l'idée d'aller au presbytère pour demander au curé s'il ne pourrait pas leur apporter une aide, éventuellement leur confier un petit travail. Alors ça va commencer par une présentation du curé et de la servante, de la bonne. Voilà, et ce texte est très émouvant parce qu'il met en opposition, d'une part, l'amitié de ces deux pauvres vagabonds et puis l'égoïsme bourgeois des deux autres personnages. Alors, je commence la lecture d'une partie du texte « Solitude de la pitié ». Monsieur le curé débourra sa pipe dans le bassin aux offrandes. Le cendrier était là-bas, sur le rebord du prie-dieu. Il mit la pipe chaude à l'étui. Il s'agissait maintenant de classer par rue et par maison ces numéros des veillées religieuses qu'il allait distribuer aux abonnés. Il manquait 3 livraisons. Il souleva les livres et en numéro de la croix, tout étalé. À la fin, elles étaient là, sous le paquet de fraissures de porc que son frère venait d'apporter. Ça n'a plus de soin. Une couverture était tachée. Il l'inclinait dans le jour gris de la fenêtre pour voir si ça se voyait bien, si, en le donnant de biais, ou bien alors, il n'y avait qu'à le donner tel que, à Madame Puré, la lampiste, elle n'y voit guère. Elle a toujours les doigts pleins de pétrole, elle croira que c'est elle. Il y avait aussi, là, sur le plancher, et laissé aussi par l'Adolphe une plaque de fumier d'écurie à l'empreinte d'un talon. Monsieur le curé se leva et, à petits coups de pointe de soulier, poussa l'ordure jusqu'à l'âtre. « Marthe, on a sonné !»«
Quoi ?»
demanda Marthe en poussant la porte de la cuisine. « On a sonné, je dis !» Sur la servante, la mince ficelle du tablier départageait les grosses mamelles et le ventre. « Encore, aussi, monsieur, vous pourriez un peu aller voir ?» Toujours monter, descendre, moi, avec mes jambes, mon emphysème, vous en verrez la fin, à la fin. On sonna encore une fois. Allez un peu voir, vous. Si c'est peu de choses, vous le réglerez en bas. Avec ce temps, ceux qui montent me salissent partout. Elle avait la figure toute mouillée de graisse. C'est en plaçant les barres de dollars, elle dit. Le garde-manger est trop haut. Une a glissé et je l'ai retenue sur la joue. « Voilà !» cria le curé dans le couloir. Puis, il tira les verrous et ouvrit la porte. « Bonjour, monsieur !» dit le gros. Le maigre, aux yeux bleus, était là derrière, à grelotter dans sa houppelande. « On ne peut pas donner !» dit le curé en les voyant. Le gros retira son chapeau. Le maigre porta la main en l'air, le regard planté dans le curé. « Vous n'auriez pas quelque petit travail ?» dit le gros. « Un travail ?» Et le curé avait l'air de réfléchir, mais en même temps, il poussait doucement la porte. Un travail. Il ouvrit la porte en plein. « Entrez !» il dit. Le gros, qui avait remis son chapeau, l'enleva encore, alla précipiter. « Oh, merci bien, monsieur le curé, merci bien !» Et il racla ses souliers au racloir, et il entra, en courbant un peu les chines, malgré la haute imposte de la porte. L'autre ne dit rien. Il entra tout haut et les pieds sales. Il suivait les gestes du curé avec le froid triste de ses yeux bleus. On entrait dans un couloir charretier parce que la cure avait été dans le temps une maison à seigneur des champs. Venait après une cour carrée. Dans cette cour, les escaliers s'appuyaient, puis montaient à grands élans carrés comme la cour. « Attendez-moi là !» se souvint de dire le curé en regardant les pieds boueux. Il monta. Le gros eut un petit sourire en silence. « Tu vois, ça va aller, » il dit. « 20 sous qu'on a dépensé. » « Marthe !» dit le curé en entrant. Puis aussitôt, « Qu'est-ce que tu fais là ?» C'était un plat posé chaud sur la table de bois blanc, et là-dedans, la fraissure grésillée avait des morceaux de foie violets comme des fleurs et des riz en grappes. « Une picoche !» dit Marthe. Et elle se mit à verser en mince fil un vin épais à parfum de cèpe. La graisse bouillante se tut. « C'est pour ce soir ?» demanda le curé. « Oui. Dis-moi, Marthe, sais-tu à quoi j'ai pensé ? Si on profitait de se faire arranger le tuyau de la pompe ?»« Oh, faudrait descendre dans le puits !» dit Marthe, qui réglait le fil du vin. « Eh oui !» dit le curé. Elle ne dit rien, puis elle releva le goulot d'un coup sec. Elle porta le plat au feu. « Et vous le trouverez, vous, celui qui descendra ? Vous savez ce qu'il a dit, le plombier ? Il n'avait pas envie de se tuer. C'est un vieux puits. Et puis de ce temps, vous le trouverez, vous ? Écoute, il y en a deux, en bas, qui demandent quelque chose à faire. Ça a l'air de gens qui ont besoin. « Oh, alors, faut profiter, » dit Marthe. « Parce que, vous savez, le plombier, il ne descendra jamais. Il me l'a dit. S'ils ont besoin, faut profiter. » « Voilà ce dont il s'agit, » dit le curé. « Nous avons une pompe et le tuyau de plomb était cramponné contre la paroi du puits. Le crampon ou les crampons ont dû lâcher. Le tuyau s'est décollé, on pourrait dire, et il fait le serpent dans le vide. Il pèse comme ça sur les boulons du haut et ça pourrait s'arracher en plein. J'ai de ces crampons, justement. Il faudrait descendre. « Il est profond, votre puits ?» demanda le gros. « Non, » dit le curé, « non, oui, enfin, pas trop, vous savez, c'est un puits de maison, 15-20 mètres au plus. »« Il est loin ?»« Non, il est là. » Le curé marcha vers un côté de la cour, et le gros suivait, et l'autre suivait dans sa houppelande. C'était un portillon dans le mur, et dessous, une auge en vieille pierre mangée d'eau. Il ouvrit le portillon, les gonds crièrent, et il tomba 2 ou 3 pots de rouille sur les dalles. « Voilà, vous voyez ?» Le puits souffla une aigre haleine de plantes de nuit et d'eau profonde. Il y eut le zglouf d'une pierraille détachée et qui tomba. Le curé, très en arrière, se pencha, et en même temps, il reculait son derrière, et on entendait se crisser ses orteils dans son soulier. « Voilà, vous voyez ?» Il eut l'air de vouloir s'excuser. « Comme vous êtes deux, » dit-il. Le gros regarda alors son compagnon. Il était là, toujours flottant dans sa houppelande grise. Il n'avait pas de visage, sauf les yeux bleus, froids, toujours plantés dans la soutane noire du curé, mais regardant au travers et par-delà l'âme triste du monde. Il tremblait et il avalait péniblement sa salive à grands coups de pomme d'Adam. « Bon, monsieur le curé, » dit le gros, « ça fera. Je suis seul, mais ça fera. » « Mets-toi là, vieux !» dit le gros. Il y avait, au fond de la cour, une porte. Derrière, on entendait courir et crier des lapins. « Mets-toi là, assieds-toi. Tu n'as pas froid, pas trop. » Puis, il s'assit à côté et il commença à délacer ses souliers. « J'aime mieux pieds nus. On se retient des ongles. » Puis, il déboutonna son pantalon houssarde et il le retira. « La jambe joue mieux et puis c'est lourd. Mets-le sur toi, ça te tiendra chaud. » La respiration du puits fumait dans l'air froid de la cour. « Si j'ai besoin, je crierai, » dit-il au moment où il enjamba le rebord. Il se tenait encore des mains et on voyait encore sa tête. Il regardait en bas dans le noir, on sentait qu'il était en train d'assujettir ses pieds. « Je vois les trous, vieux, ça va aller !» Il disparut. L'homme se dressa, il s'approcha du puits, chercha l'ouverture en tâtonnant de la main, il se pencha. On entendait en bas, semblait-il, une espèce de raclement. Hé ! Il cria. Hé ! Répondit l'autre d'en bas. Ça vint au bout d'un moment, tout étouffé dans un matelas d'air. Tiens-toi bien, dit l'homme. Oui, répondit le gros. Puis elle demanda, et toi là-haut, ça va ? Le gros marcha dans l'ombre. On entendit ses pieds boueux claquer sur les doigts de la froide. Tu es là ? Il demanda. Oui. Donne-moi mes pantalons, c'est fini. Fais pas chaud, dit-il encore une fois vêtu. La maison était toute silencieuse, sauf le grésillement d'une friture qui coulait du premier. Il appela, « Monsieur le curé !» La friture empêchée. Il cria, « Monsieur le curé !»« Quoi ?» demanda Marthe. « C'est fait !» dit l'homme. « Quoi ?» demanda encore Marthe. « La pompe !»« Ah, bon, je vais voir. » Elle entra dans la cuisine et essaya de donner un coup de pompe à l'évier. L'eau coula. Monsieur le curé lisait près du poêle dans le grésillement de la friture. « Ça coule !» elle dit. Il leva à peine les yeux. « Bon, va les payer. »« Combien je donne ?» Ça a été vite fait, somme toute. « Et tirez bien la porte. » Mais elle les accompagna, les regarda sortir, puis, enclenchant durement le loquet, poussa le verrou, mit la barre. Y tombait une pluie tenace et froide. Sous le réverbère, l'homme ouvrit sa main, c'était 10 sous. Les yeux bleus regardaient la petite pièce et la main toute mâchurée d'égratignure et debout. « Tu te fatigueras, dit-il, je te suis une chaîne, moi, malade, tu te fatigueras, laisse-moi. »« Non, dit le gros, viens. »
Jean-Luc Haribou, à la prochaine rencontre des lectures donc des personnages extraordinaires de Jean Giono.
Ce sera un extrait d'un recueil de textes, lui aussi, très peu connu, de Giono. Le texte lui-même s'appelle Marie M, dont le personnage n'est pas nommé. Et c'est un extrait des récits inachevés. Voilà, c'est l'histoire de deux personnages truculents qui sont tous les deux tout seuls dans un village qui est moribond, qui est abandonné. Ils ne sont plus que deux dans les ruines de ce village. Et bien sûr, ils se haïssent. Alors, on verra un petit peu comment ils ripostent l'un à l'autre à l'occasion de coups de fusil et de coups de carabine.
Jean-Luc Haribou, donc rendez-vous mercredi 26 juillet à 9h30 sur Fréquence Mistral Digne 99.3 pour ce quatrième personnage extraordinaire de l'œuvre de Jean Giono. Bonne journée, à bientôt.